ici Valérie Leboeuf. Voici les nouvelles. Bonne fin de journée, mesdames, messieurs. D'abord, le premier ministre canadien s'est envolé cet après-midi pour Washington, où il rencontrera demain le président Donald Trump. Mark Carney souhaite amorcer des négociations sur un potentiel accord commercial avec les États-Unis. Selon l'ancien chef de mission adjoint de l'ambassade du Canada à Washington, Guy Saint-Jacques, la délégation canadienne doit tenter de préparer au mieux les détails de la rencontre à venir.
C'est une rencontre qui est extrêmement importante et qui va décider du cours des choses pour les prochains mois, les prochaines années. Monsieur Carney veut éviter les surprises, il veut éviter un guet-apens dans le bureau ovale. Et là, ça va être la tâche des diplomates, entre autres de notre ambassadrice à Washington, Kirsten Newman, d'essayer de négocier à l'avance le maximum de détails, éviter les surprises.
Économie, les investissements étrangers au Québec ont fondu de moitié au cours de la dernière année. La guerre commerciale avec les États-Unis est en partie responsable de cette chute brutale, mais ce n'est pas l'unique cause. Philippe Bonneville.
Les entreprises étrangères ont investi 50 % moins d'argent au Québec, 6,5 milliards de dollars au lieu de 13 l'année précédente. Une année où les résultats avaient été quelque peu gonflés par de multiples projets de la filière batterie. Hubert Bolduc, grand patron d'Investissement Québec, reconnaît toutefois que la grande incertitude liée aux tarifs douaniers a aussi eu un impact.
La planète investissement étranger est en attente de voir ce qui va se passer.
Les menaces de Donald Trump ralentissent donc grandement les projets des entreprises, ce qui aura inévitablement un impact sur notre économie.
Les entreprises sont inquiètes, elles attendent avant de faire soit du démarchage à l'international, soit de faire des investissements.
Et même si les entreprises du Québec tentent de diversifier leur marché d'exportation, il reste que 60 % des ventes sont toujours réalisées aux États-Unis.
On l'est encore beaucoup trop dépendant sur le marché américain.
Philippe Bonneville, Cogeco Nouvelles, Montréal.
Le milieu du cinéma se demande d'ailleurs comment l'administration Trump mettra en place ses tarifs dans cette industrie. Le président américain Donald Trump a annoncé hier qu'il avait l'intention d'imposer des tarifs de 100 % aux films qui ne sont pas entièrement tournés aux États-Unis. Michel Trudel est cofondateur des studios Mills à Montréal. Selon lui, il est impossible pour les Américains de tout produire dans leur pays.
On a bâti des studios, on a fait en sorte qu'il y ait des écoles en cinéma qui puissent entraîner des futurs techniciens et tout. Alors Montréal a tout pour attirer les gens et d'ailleurs, je vais à Los Angeles trois fois par année justement pour continuer d'attirer les gens de venir tourner ici. C'est important. Honnêtement, j'ai pas peur. J'ai hâte de voir ce que M. Trump va sortir.
L'industrie du cinéma américain représente des sommes de quelques centaines de millions de dollars avec une douzaine de tournages par année à Montréal. Les partis d'opposition exigent le maintien de l'urgence de Fortierville dans la région du centre du Québec. En raison d'une pénurie de médecins, l'urgence est fermée de 20h à 8h en semaine et tous les week-ends. La mairesse de Fortierville, Julie Pressé, et le préfet de la MRC de Bécancour, Mario Lyonnais, gardent cependant espoir que la situation change.
Pour le moment, l'information qu'on a, on n'a pas de confirmation officielle, c'est qu'il y a une certaine sécurité pour l'été. À quel point, on n'a pas de détails.
On est à jour, radiographie, prise de sang, on a tout. Il manque quelques médecins, si on aurait des médecins dépendants ou des médecins qui étaient aidés, là. Mais je pense que notre urgence resterait là.
Et les activités de pêche à la Société des établissements de plein air du Québec, communément appelée la CEPAC, risquent d'être perturbées alors que des syndiqués y annoncent 3 jours de grève à compter du 15 mai. Le litige porte sur les salaires, l'ancienneté en cas de rappel au travail, la mobilité et les garanties d'heures de travail puisqu'il s'agit principalement d'employés saisonniers. Le président, directeur général du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, Christian Daigle, espère que ces 3 jours de grève feront débloquer les négociations.
C'est une possibilité pour un potentiel de grève de 3 jours qui va venir perturber l'ouverture de la pêche.
Vous écoutez Cogeco Nouvelles.
Météo.
À la météo pour ce soir et l'année prochaine à Montréal, on prévoit des averses avec un minimum de 11 degrés. Pour Gatineau, ce sera des averses. 5 mm sont attendus par endroit, minimum de 12. Sherbrooke, partiellement nuageux, 40 % de probabilité d'averses avec un minimum de 12 degrés. Trois-Rivières, partiellement nuageux, 11 degrés. Et du côté de Québec, quelques nuages avec un minimum de 9.
Cogeco Nouvelles. Radio qui fait jaser dans le Bas-Saint-Laurent. CFIX FM 93. Si ça fait partie de l'actualité, vous le saurez à CFIX FM 93. CFIX. Au réseau Cogeco Média. Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Une analyse complète de la journée. Le Québec maintenant. Maintenant. Avec Philippe Quentin.
Il est 17h05, il fait un beau 23 degrés à Montréal, le ciel est partiellement nuageux ce soir et cette nuit, un minimum de 11 degrés, des averses au menu. Demain mardi, la journée somme toute sera acceptable, un maximum de 22 degrés et 30% de chances de pluie, des averses au menu pour mercredi et jeudi. Mais la bonne nouvelle, là, c'est que le printemps semble officiellement arriver, la météo vient de changer, on prévoit du soleil vendredi et on prévoit surtout un très très beau week-end, du soleil et 20 degrés. Catherine.
Eh bien, je vous annonce que le chanteur Benson Boone sera de passage à Montréal. Donc, auteur, compositeur, interprète, il n'a seulement que 22 ans. Il est multi-instrumentiste. Il s'est fait découvrir sur TikTok par son tube Beautiful Things. Et il engage sa première tournée. Donc, il va se promener un peu partout aux États-Unis. Il sera de passage ici le 30 août prochain au Centre Bell. Il y a d'ailleurs un album American Heart, qui est le titre de sa tournée, qui va sortir le 20 juin prochain. Alors, je sais que ça va créer un amoncellement de fans.
Ah oui.
Lorsqu'il sera temps d'acheter les billets, c'est-à-dire en pré-vente jeudi le 8 mai à 10h ou sinon le vendredi 9 mai à 10h.
Et un amoncellement de petits robots qui vont acheter des billets pour des compagnies de revente, malheureusement.
Ouais, si on pouvait l'éviter, hein?
Ouais.
Ah, mais juste 22 ans.
22 ans. Ouais. J'en reviens, tu sais, découvert sur TikTok, le monde a tellement changé, le monde musical. Là.
Pas besoin de micro-sillon, hein?
Ben non. Oui, il a fait American Idols quand même, mais
un jour,
je me dis...
t'expliqueras ouais. Nos plus jeunes auditeurs, auditrices, ce qu'était un micro-sillon. Et on enchaînera avec le 45 tours. Nathalie Normando, là. Salut Nathalie.
Allô Philippe.
Alors, de quoi tu nous parles aujourd'hui?
Éric Duhem, une question. Éric Duhem devrait-il être le seul candidat en liste pour l'élection partielle à venir dans le comté d'Arthabasca?
Excellent. Meeker, oui.
Ouais, j'ai parlé du match de ce soir et de la loterie pour le repêchage. Je vous donne rapidement les équipes qui ont le plus de chances de remporter le premier choix au prochain repêchage. San Jose avec 18,5%, Chicago avec 13,5% et Nashville avec 11,5%. Le Canadien, lui, a le choix des Flames de Calgary, mais si les Flames remportent la loterie, les Flames ont plutôt donné le choix des Panthers de la Floride. Donc, c'est tout ce qu'il y a à surveiller pour les partisans du Canadien ce soir.
C'est qui le joueur numéro un là, que tout le monde veut s'arracher?
Oh boy, je vais te revenir là-dessus parce que je t'avoue que ça va être demain parce que j'ai un peu décroché des choix repêchage.
Maurice Richard.
Ouais, c'est ça.
Avec le micro-sillon.
C'est le grand retour de Maurice. Et moi, je vous annonce là que les auditeurs, les auditrices ont parlé. Nous allons adopter une équipe pour le reste des séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Voilà. Alors, le Québec maintenant, notre émission, pas le 98.5 dans son entier, notre émission, le Québec maintenant, eh bien, on adopte les Jets de Winnipeg.
À Winnipeg, les nuits sont longues, tu me l'avais bien dit. Les filles sont noires, sont brunes, sont blondes, mais j'en ai pas envie.
Matthew Schaefer. 6 pieds 2, 183 livres, okay. Qui joue à Arias, un défenseur dans la Ligue de l'Ontario. C'est lui, en fait, qui est projeté comme choix numéro 1.
C'est Matthew Schaefer. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire qu'on adopte les Jets de Winnipeg? Ça veut dire qu'on va accorder un petit peu plus d'importance à cette équipe-là. Ça devient notre équipe chouchou un peu pendant les séries.
Moi, j'ai toujours rêvé de visiter Winnipeg.
Ben, vois-tu, au coin de Portage et Maine, c'est magnifique. C'est un beau lieu de rendez-vous. Je suis déjà allé, mais c'est
bon. J'en doute pas, il paraît qu'il vente en tabarouette.
Ben, le Saint-Boniface, c'est magnifique. Il y a quand même des choses à voir. C'est quand même la place de Louis Riel. Alors, il y a quand même beaucoup de notre histoire là-bas. Dimitri Soudas, salut.
Salut, Philippe.
Alors, Mark Carney, demain, quel rendez-vous pour lui?
Tout à fait. Donc, notre premier ministre rencontre Trump à l'heure du dîner, mais ce n'est certainement pas une rencontre de type dîner décontracté.
Non, sûrement pas. On s'en parle dans un moment. Salut Valérie Beaudoin.
Salut Philippe.
Alors, tu vas revenir sur l'entrevue de Donald Trump à NBC hier.
Oui, je vais vous résumer ça. 51e État, Constitution et j'en passe. Donc, tout ce qui s'est dit ce week-end.
Merci et à bientôt, soit dans une vingtaine de minutes environ. Valérie, Michel Boisvert est là. Salut Michel.
Bonjour Philippe.
Bon, alors, Donald Trump a rencontré la ministre Martine Biron à Rome lors des funérailles du pape.
Oui, tout à fait. Et il lui a dit « deal ». Mais je pense qu'il dit ça à tout le monde. Mais on va revenir là-dessus.
Excellent. Alors, merci Michel. Oui, Annie, bien sûr. Annie Guillemette est avec nous, notre journaliste. Annie, il y a une nouvelle vraiment comment dire, troublante aujourd'hui dans l'actualité.
Effectivement, c'était le début de l'enquête du coroner qui touche les soins qui sont offerts aux personnes qui souffrent d'une lésion à la moelle épinière. Donc, on parle de la mort de Normand Meunier. Il est décédé en mars 2024, donc un peu plus d'un an maintenant. Il a demandé l'aide à mourir. Pourquoi? Parce que ses plaies de lit ne pouvaient plus être guéries. Et ça a été accepté, donc c'était vrai. Cet homme-là était tétraplégique, donc ne pouvait pas bouger ni les bras ni les jambes. Il avait 66 ans. Il était toujours couché ou dans son fauteuil roulant. Il avait besoin d'équipements spécialisés. Bien sûr, il souffrait de plusieurs plaies de lit et devait se rendre souvent à l'hôpital pour plein de conditions médicales différentes. Normalement, les équipes se parlent. On explique, on est rendu où dans les traitements, on suit les plans de traitement. Visiblement, c'est pas toujours le cas. Il a été hospitalisé en décembre 2023, de retour à la maison à la fin janvier. Il était dans un piteux état, donc à l'hôpital de Saint-Jérôme, qu'avait eu lieu cette hospitalisation-là. Et l'infirmière qui donnait ses soins à domicile a témoigné aujourd'hui devant le coroner. Elle a dit qu'il y avait une de ses plaies qui faisait 15 cm de long. Ça, c'est à peu près la longueur d'une main. Dans certains cas, on voyait même les os à l'intérieur de ses plaies. Sa conjointe, Sylvie Brosseau, a parlé aux journalistes. Elle a eu des mots très durs, très crus. Elle a aussi lancé un appel pour le suivi des fameux plans de traitement. On l'écoute.
Horrible! Oui, il n'y avait plus de fesses. C'était gratté, là, il n'y avait plus rien, là. Fait que c'était plus... Il était plus bien, là. Il est supposé rien sentir... Puis là, les deux dernières semaines, ça a été l'horreur. J'ai rien contre les infirmières, puis les préposés, ils font tout le possible. Mais Seigneur, c'est pas parce qu'il y en a une qui a une brillante idée qui essaye ça. Faut suivre un protocole. Faut faire un travail d'équipe. C'est pas ça qui se fait.
Quel cri du cœur de Sylvie Brosseau, Annie. C'est une enquête qui pourrait avoir des répercussions là, dans tout le réseau de la santé.
Oui, la liste des personnes qui le souhaitent est très, très longue. Bien sûr, il y a Mme Brosseau. Il y a aussi un organisme qui vient en aide à ces personnes-là, qui s'appelle Moi, l'épinière motricité Québec. Bien sûr, leur avocat, Patrick Martin-Ménard, et même le coroner, Dave Kimpton, qui a pris la parole ce matin. Tout ce monde-là est d'avis que l'enquête va mettre en lumière, bien sûr, des lacunes, mais l'objectif, c'est d'avoir des recommandations pour améliorer les soins pour toutes les personnes qui vivent avec une lésion à la moelle épinière. Donc, d'ici le 6 juin, l'enquête concernant le décès de Normand Meunier va se dérouler. On va appeler à la barre presque 40 témoins, Philippe.
Merci beaucoup, Annie Guillemette.
Au revoir.
Son opinion stimule la discussion. Voici Nathalie Normando.
Nathalie, je te voyais réagir en studio pendant qu'Annie Guillemette nous dressait le portrait de cette situation-là, là, la mort de Normand Meunier.
Ben voyons, ça a du bon sens, Philippe. Écoute, des plaies de lit telles aux fesses qu'on voyait ses os. Moi, ce qui me fascine à chaque fois, lorsqu'on est confronté à ce genre de cas extrême, c'est les plaies de lit de M. Normand, elles ne se sont pas développées en 24 heures. Sa situation s'est dégradée au fil des semaines, des mois qui se sont écoulés. Comment se fait-il que personne n'a appuyé sur le bouton rouge pour alerter les réseaux de la santé, pour alerter le personnel dans l'hôpital? Deuxièmement, Philippe, bravo pour cette décision du coroner en chef d'enquêter sur ce cas, mais combien de recommandations de coroners sont laissées, sont demeurées sur les tablettes?
Sur les tablettes, ouais.
Absolument, sont restées lettres mortes. Combien, Philippe? Combien? Alors, ma crainte, c'est que cette enquête, puis Annie l'a dit, une quarantaine de témoins vont être appelés à témoigner. J'espère cette fois-ci que les recommandations et les témoignages entendus ne resteront pas à l'écoute de cette souffrance, de ces souffrances vécues par ce couple et par ce pauvre homme. Je l'ai vu à la télé, mais là, le témoignage que nous a fait entendre Annie par sa femme, c'est la première fois que j'entends, puis bien honnêtement, on avait tous les deux la même réaction.
Avec une plaie grande comme une main.
C'est épouvantable, épouvantable.
Ben, souhaitons que sa mort conduise à quelque part à quelque chose de positif, qu'il y ait des recommandations, puis qu'on puisse éviter dans l'avenir des situations semblables. Mais franchement, nos sympathies à toute la famille Normand Meunier, là, qui est mort dans des conditions vraiment terribles. OK, Nathalie, on va parler de politique provinciale. Alors hier, c'était la grande journée pour Éric Duhaime. Il a confirmé la nouvelle que tout le monde connaissait, c'est qu'il sera candidat pour le Parti conservateur.